Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être à l'écoute de cette émission. Aujourd'hui, je vous propose un spécial controverse. On va aborder pendant 2 heures que des sujets controversés. D'abord, en deuxième heure d'émission, je veux vous dire qu'on a, j'ai l'impression qu'on a contribué un peu à faire connaître toutes ces fameuses injections de vitamine C qui font aujourd'hui beaucoup, beaucoup parler. Et là, visiblement, il semble que Nathalie Prudhomme, celle qui se bat contre le cancer depuis 2005, donc ça fait presque 14 ans, et qui a lancé cette fameuse pétition signée par plus de 125 000 personnes qui doit être présentée à l'Assemblée nationale pour en discuter. C'est une pétition, là, c'est rare là, qu'il y ait autant de gens qui en signent. Nathalie qui reçoit depuis plusieurs semaines, pour pas dire plusieurs mois, des menaces pour cesser cette tentative, que certaines personnes lui disent, cette tentative de faire plier le gouvernement là-dessus pour qu'on finisse par financer des injections de vitamine C. Bref, là, cette semaine, c'est le pharmacien, Olivier Bernard, qui disait qu'il était lui-même victime d'intimidation et de menaces. Bref, sincèrement, les amis, là, ça prend des proportions astronomiques qu'on ne comprend pas. Sincèrement, je ne comprends pas ce qui se passe. À nouveau, le pharmacien est bienvenu à notre émission. On aimerait ça y parler. Je sais qu'il voudra pas, mais je lance quand même l'invitation. Nathalie Prudhomme va être là tout à l'heure en deuxième heure d'émission avec nous. Même Nathalie avait de la misère à accepter notre invitation, puis pourtant, elle sait que moi, je suis pour vivre et laisser vivre. Si ça fait du bien au monde, pourquoi pas? Mais on va essayer de voir là, un peu là, comment ça se fait que c'est en train de déraper cette affaire-là. Et puis, essayer de clarifier un peu les choses par rapport à ces fameuses injections dont on dit qu'elles ne sont pas permises au Québec. Mais quelles leçons en Ontario? On va clarifier tout ça. Pourquoi encore la controverse? Parce que je reçois l'humoriste Mike Ward. Hey, je vous dis, ça ne va pas être plate, cette émission-là. À vers 11h30, Mike va revenir nous parler de son nouveau spectacle qui s'appelle Noir. Noir, pourquoi? C'est un peu son état d'esprit. Je pense que l'affaire Jérémy, le petit Jérémy Gabriel, ça y est rentré dedans. Bref, il y a eu des idées assez noires aussi. Fait qu'on va voir avec Mike Ward où il en est aujourd'hui. En première heure d'émission, encore une fois, controverse, et celle-là, ça a été relancé, je devrais dire, la semaine dernière, parce qu'il y a un mouvement religieux. Parole qui libère, qui a été montrée du doigt parce qu'il y a eu des sommes d'argent importantes qui ont été demandées à des disciples. Tu sais, un prédicateur qui dit, là, tu me donnes 10% de tout ce que tu gagnes dans la vie. Ça a l'air que c'est même pas illégal. Je suis absolument abasourdi de ça. Tu peux, je sais pas si n'importe qui peut aller voir quelqu'un. À partir du moment où tu prêches la bonne parole puis que l'autre te croit, ben, tu peux lui demander, donne-moi donc un bout de ton salaire. Mais tu sais, en même temps, si l'autre te le donne. Tu sais, c'est qui le pigeon là-dedans, finalement? Visiblement, il y en a un, puis il y en a un qui abuse aussi de la bonne volonté, puis peut-être du manque de croyance, du vide spirituel. C'est un peu ça que je vais aborder avec vous ce matin, puis avec mes invités. Et je vous présente tout de suite Nathalie, qui est une ex-membre de l'Église biblique baptiste métropolitaine sud, parce que la semaine dernière, on a beaucoup parlé du pasteur Mario Monette et sa conjointe, Carole Vanhout, de cette fameuse église qui en est peut-être pas vraiment une. Nathalie a accepté de prendre la parole ce matin. Merci d'être là, Nathalie.
C'est un plaisir. Merci de me recevoir.
On dit église, mais on fait quasiment le jeu de ces gourous. Moi, j'aime bien le mot gourou quand il s'agit de présenter ce genre de personnes.
Effectivement.
C'est pas l'église, l'église.
Pour moi, c'est pas une église. Définitivement, je ne peux qualifier cet endroit d'église.
Racontez-moi, vous, Nathalie, vous avez été membre de ce groupe religieux pendant 20 ans.
Oui, effectivement.
Vous aviez quel âge à l'époque?
J'avais 22 ans quand je suis arrivée en 1992. Et,
qui vous a amené là?
Ben, de mon propre chef, du fait que j'avais l'amour pour la parole de Dieu. À partir de l'âge de 16 ans, je me suis intéressée beaucoup aux Saintes Écritures. Et je voulais un endroit qui pouvait prêcher la parole de Dieu. Je m'étais mariée dans les églises évangéliques dans le temps, en 1988.
Et, donc, vous êtes mariée jeune?
Oui.
Avec quelqu'un aussi, votre conjoint de l'époque, parce qu'aujourd'hui,
qui croyait dans les Saintes Écritures.
Ouais.
Et bon, on cherchait un endroit qui pouvait nous expliquer les Saintes Écritures comme il faut. Et,
vous n'étiez pas satisfaite de ce que l'Église catholique ou, par exemple, les paroisses, parce qu'il y a aussi il y a de la pastorale, ça ne vous suffisait pas. Vous aviez besoin de plus.
Non, mais en fin de compte, je me suis questionnée. Je me suis posé les bonnes questions à l'âge de 16 ans. Qui dit vrai dans tout ça? Et moi, avec mon expérience de vie. J'étais élevée catholique et bien élevée par une bonne famille que j'apprécie beaucoup et que je remercie de l'éducation que j'ai reçue. Mais à travers l'Église catholique, sauf que moi, mon passé à moi, je suis une enfant de la miséricorde qui a été donnée en adoption en 69 à cause des pressions religieuses.
Donc, je comprends tout à fait votre cheminement en ce moment-là.
Voilà. Alors, pour moi, je voulais pas suivre des hommes et une religion. J'ai toujours été contre la religion et la religiosité.
Mais vous aviez besoin de quelque chose.
J'ai besoin de Dieu.
Ouais.
J'ai besoin de cette relation avec Dieu. Pour moi, je crois en Dieu et je croyais en Dieu avant l'époque de Mario.
Mario Monette, le fameux
oui.
prédicateur.
Oui.
Comment...
Et j'ai conservé ma foi. Ça, ouais. C'est ce que je suis contente. Ça a été un passage pour moi ces 20 années-là. Mais j'ai conservé ma foi parce que je l'avais avant. Et s'il y a quelque chose, ma foi est encore plus forte.
Comment ça s'est passé avec Mario Monette au début? Mario Monette étant donc le fameux prédicateur qui, avec sa conjointe, la semaine dernière, sont sortis.
Il a un pouvoir de persuasion de sa personnalité à lui, qui est une personnalité forte. Et il a de l'aplomb. Il a pris les Saintes Écritures pour apporter sa touche personnelle. Donc, il défait ce que les Écritures disent. Je vais prendre un anglicisme, il twiste les Écritures.
Ouais. Mais au début, ça vous a plu, ce qu'il disait. Vous aviez trouvé là réponse à vos fameuses questions.
Oui, il y avait des réponses avec les Saintes Écritures qui plaisaient au début.
Ouais.
C'est sûr, pour qu'on puisse qu'on adhère là.
Et que vous restiez. Et qu'on reste. Partie de cette Église.
Et qu'on reste. Ouais. Mais c'est devenu de plus en plus où est-ce que sa saveur était de plus en plus présente. Et Dieu dit « Maudit l'homme qui se confie en l'homme ». Donc, ma confiance pour moi en allant là-bas était en Dieu. Et oui, il y a quelqu'un qui prêche, mais l'Esprit-Saint me dicte ma conduite et non un homme. Je veux dire, il apporte un message, mais...
Aujourd'hui, vous pensez ça, parce que vous en êtes sorti.
Ah, mais même à ce moment-là, quand même. Même à ce moment-là. Mais lui est venu à user de son autorité, de sa position de pasteur, en guillemets, parce que il faut avoir un cœur de pasteur pour être pasteur.
Ouais. Je vais revenir à vous parce qu'il y a eu tellement de choses qui ont été dites sur cette église, entre guillemets, biblique, baptiste, métropolitaine sud à Longueuil. Là. Et d'ailleurs, maintenant, là, c'est dans les mains de la justice. Alain Pronkin, notre spécialiste des affaires religieuses ici, est avec nous. Chercheur, bien sûr, au Centre d'écoute et d'interprétation des nouvelles recherches du Croire. Merci, Alain.
Bonjour, Isabelle.
Nathalie, ce qu'elle décrit, c'est sa recherche spirituelle. C'est, bon, on comprend, adoptée, enfant de la miséricorde. Ouais. On comprend qu'elle ne veut pas aller à l'église catholique traditionnelle. Qu'il lui faut autre chose. Beaucoup de gens se retrouvent dans des groupes religieux parce qu'ils ont justement cette espèce de quête religieuse non satisfaite par l'Église catholique ou d'autres églises plus traditionnelles et se tournent à ce moment-là vers ce genre de pasteur, prédicateur, gourou. Là.
Oui, et la question, c'est toujours la même, puis je vais la poser à Nathalie tout à l'heure, puis je pense qu'elle va peut-être s'y répondre. Pourquoi elle est allée là, sur la rue Mountain View, à Saint-Hubert? Parce que cette église-là, qui est à Saint-Hubert, sur Mountain View, c'est un lieu qui peut paraître attirant pour des gens. Peut-être que les gens vont dire, je vais là, c'est beau, j'aime l'accueil, j'aime le bâtiment, et je me dirige là. D'autres vont dire non, il y en a qui m'ont dit que le pasteur était excellent et je vais aller là pour rencontrer ce pasteur-là ou j'ai vu ce pasteur-là puis il m'intéresse. Donc déjà, comment se fait ce premier lien?
Comment les gens sont amenés là?
Sont amenés là?
Comment
parce
les
que c'est
brebis
le
se ramassent-elles là?
Puis après ça, parce qu'on parlait tout à l'heure, est-ce que c'est une église? Tu as posé la question. Ecclésia, bon, ça veut dire on se réunit ensemble. Mm-hmm. On essaie d'être réunis tout le monde. Mais il y en a d'autres qui vont dire, wow, est-ce qu'on est dans le sectaire, dans le sectaire où on se sépare. Est-ce que le prédicateur Monette, au début, il était peut-être parfait, moi, je vais être une église, je veux rassembler les gens, mais par la suite, par plusieurs facteurs, il est devenu carrément sectaire en disant, vous allez me payer,
voilà.
Puis vous allez, puis voici, j'ai raison sur
tout. Toi, tu les connaissais, cette église-là?
Ben, je les connaissais pour vivre à Saint-Hubert et être passé souvent près de cette église-là, mais je la connaissais pas pour, comme telle. Moi, je pensais que c'était une église baptiste, comme les églises baptistes traditionnelles qu'on a aux États-Unis, qui sont regroupées, parce que les baptistes, c'est pas des sectes, l'église baptiste. Ce sont des gens qui se regroupent. On va regrouper peut-être 300, 400 groupes d'églises baptistes. Dans d'autres, c'est 10 ou 15. Mm-hmm. On va élire un représentant. On va essayer d'avoir une pastorale, je peux utiliser le mot pastorale, similaire partout, une interprétation des Écritures qui vont être assez similaires. Mais tu as d'autres églises baptistes, puis je pense toujours, il y en avait une qui était carrément sectaire.
Est-ce que c'est une branche de... Ou est-ce que ça c'est... Est-ce que ça fait partie d'une branche du protestantisme?
Oui, on peut le qualifier dans le protestantisme, mais tu as les courants évangélistes, tu as les courants baptistes, plusieurs types
de
courants.
Mais ça, ce sont des églises reconnues?
Oui, c'est des églises reconnues parce qu'ils se mettent en... Mais tu en as toujours un ou deux, comme la Westboro Baptist Church. Celle-là, eux, ils avaient décidé qu'il fallait dénoncer l'homosexualité. Et si les soldats américains aux États-Unis, les soldats américains mouraient au combat aux États-Unis, c'est la faute des homosexuels. Là, on s'aperçoit qu'on est carrément dans la dérive. Et ça, ça existait aux États-Unis. Mais ce groupe-là, Westboro Baptist Church, était isolé du mouvement baptiste. Mmh. Mais il y avait ses ouailles.
Mmh. Et cette fameuse église biblique baptiste métropolitaine sud à Longueuil, est-ce qu'elle est baptiste que de nom?
Peut-être qu'au début, elle était reliée, mais on s'aperçoit que...
Mais Nathalie, vous en pensez quoi, vous?
Non, jamais reliée. C'est comme des églises indépendantes, fondamentales, très à droite.
Vous dites qu'il twistait les paroles de Dieu, mais il twistait les noms aussi, visiblement, pour que ça devienne quelque chose de plus officiel, sans doute.
Bien, il se dissociait, il s'associait pas avec les églises baptistes, évangéliques ou les associations baptistes. C'est une église indépendante, donc il est maître de tout, il décide de financièrement comment l'argent est dépensé. Il décide tout ce qui se passe, il contrôle tout et c'est là que ça devient malsain.
Justement, Alain disait, comment vous êtes-vous retrouvé là? Vous dites tout à l'heure, je suis arrivée là parce que j'avais besoin de combler
ce
vide.
Mon histoire à moi, j'avais vu en 1990, j'avais visité et j'ai dit non, je pourrais jamais être membre d'un endroit semblable parce que j'ai vu... En 1990, j'avais vu les femmes tous en robe. J'avais demandé...
On peut
pas porter de pantalon. Ah. Donc, en fin de compte, oui, il y a un code vestimentaire.
Encore une autre affaire macho, ça. C'est fou, hein, pareil. Hein, y a des...
Et jusqu'aux chevilles, là, ou en bas des mollets, si on veut. Mais après ma barre, des fois, il peut avoir une bonne intention, mais toujours... amené dans l'abus.
Mais vous avez été là 20 ans, Nathalie.
J'étais là 20
ans. Il y a toujours
bien
quelque chose qui vous a gardé là pendant 20 ans?
Est-ce que oui, c'est l'amour de Dieu quand même. Moi, j'étais là pour
Mais
Dieu
étant partout, l'amour de Dieu est partout. Vous auriez pu le trouver ailleurs aussi.
Oui, mais tu veux pratiquer ta foi aussi. Tu veux donner au suivant. Tu veux apporter l'évangile, le saint évangile aussi. Là.
Est-ce que ça se peut, puis il y a zéro jugement dans ma question, est-ce que ça se peut que pendant plusieurs années, ce qu'il disait ce fameux Mario Monette, qui est décrié aujourd'hui, mais qui, à l'époque, ça fait 20 ans qu'il parle comme ça, puis qui visiblement réussit à convaincre des ouailles, même à ce que ces ouailles finissent par lui donner 10 % de leur salaire. C'est quand même pas rien, là. Mm-hmm. Mais les Jéhovah, c'est la même affaire, puis il y en a d'autres groupes, c'est pareil, là.
Oui, parce
que ça les
c'est juste pour le 10 % Le 10 % fait partie de l'Ancien Testament. Dîme vient de 10 % Donc, c'est facile de l'impliquer.
Mais dans
le
Nouveau Testament, c'est sur une base volontaire.
Oui. Ouais, alors que là, c'est...
Mais lui, c'est une obligation. Il nous rendait volontaires. Le mot volontaire, t'étais jamais volontaire.
Ouais.
Il t'amenait à penser que t'étais volontaire, mais en fin de compte, tu faisais ce que lui voulait.
Mais pendant toutes ces années, Mario Monette et sa conjointe Carole, ce qu'il disait, ça vous a quand même satisfait, ça vous...
OK, c'est pas tout qui est pas bon. Mmh. C'est comme dans la religion catholique. J'ai dit j'étais bien élevée.
Mmh.
Mais j'ai pas voulu m'identifier à la religion catholique.
Mais l'avez-vous vu? Parce que là, aujourd'hui, on leur reproche. Il y a 32 chefs d'accusation.
Oui,
là.
Mais là, c'est une histoire de famille. De... Ouais. C'est une histoire de famille. Là. Les 32 chefs d'accusation, c'est en tant que père et mère.
Mm-hmm. Ils battaient leurs enfants. Apparemment, là, c'est ce qu'on dit. Donc, qu'on prétend, c'est qu'ils auraient été extrêmement violents. Voilà,
oui, c'est ça. Oui, et la justice s'en occupe. Oui, c'est quand même... pour chacun 32 chefs d'accusation sur ce qu'ils ont fait. Moi, je suis là pour ce que j'ai vécu à travers l'Église. Ils ne m'ont pas battue corporellement. Là.
Mm-hmm. Donc, mais on parle de contrôle psychologique sur des membres de cette Église.
Oui, je veux dire, le contrôle, c'est terrible. C'est l'abus de pouvoir. Pour moi, je veux dire, je qualifie ce qui est arrivé, c'est du viol de la paix de l'âme. C'est de toujours vouloir nous culpabiliser, nous faire sentir qu'on n'en fait jamais assez, qu'on n'en donne jamais assez, qu'on n'est pas assez spirituel. Et pour des gens qui sont crédules, on croit en Dieu.
Et vous vous dites, c'est possible qu'il y a raison.
Oui, c'est comme ouais. Tu veux toujours... comme quand t'es en amour avec ton conjoint, t'es prête à tout faire pour ton amour, ton amoureuse.
Pour plaire.
Pour plaire, pour plaire. Et lui, il utilisait notre amour et notre bonté et notre charité à mauvais...
De science, visiblement.
Oui, voilà.
Mais
voilà.
Il arrivait à faire croire à ses ouailles, Alain, que c'est Dieu qui demandait ça et que c'était devant Dieu que vous parsiez
oui,
mal, dans
le fond. C'est que lui... Son message, c'était l'homme de Dieu et l'homme avec l'inspiration de Dieu. Et pourtant, les gens qui sont là-bas, c'est des gens, des hommes d'affaires, des femmes intelligentes.
Et ça, vous avez vu la clientèle, ceux qui croient, les croyants.
Oui,
c'est des gens que c'est pas des...
Mais on se le disait entre nous, là, ça n'a pas de sens ce qu'il fait. Puis on est là pour Dieu, on n'est pas là pour monette, on est là pour Dieu. Donc, on voyait beaucoup de choses et on a pardonné beaucoup de choses et on a eu de la charité. On était enseigné à ça aussi, à la charité, pour lui aussi. Bien souvent, il prêchait ça parce qu'il venait de faire une gourde et il prêchait de pardonner.
Ouais.
Donc, oui,
c'est très insidieux tout ça. Hein?
Oui, il y a des gens bien là-dedans.
Ouais.
Et... les enfants qui ont souffert, ça m'arrache le cœur de quand j'ai entendu ça, j'en étais sortie quand j'ai entendu plein d'atrocités.
Vous allez nous raconter parce que vous, votre sortie, votre histoire, ça c'est incroyable, ça a été compliqué, puis ça a fini par user votre couple, vos enfants n'avaient pas le droit de vous parler pendant longtemps. C'est souvent ces histoires-là qu'on entend. Souvent d'ailleurs dans les Témoins de Jéhovah, il y a ça aussi, cet isolement. Oui. Une fois quand ça fait plus ton affaire que tu veux sortir, c'est là où il y a des bâtons dans tes roues. Puis
mais
après on va dire.
J'ai eu d'autres quand que mes enfants sont sortis, que j'en suis sortie, j'en ai eu des enfants de mormons qui se retrouvent chez moi, qu'ils ont plus de domicile fixe, là, ils peuvent plus aller chez leurs parents, mais ça a juste 16 ans, ils se retrouvent dans la rue.
Wow.
Et c'est ça que cette église-là encourageait aussi.
On va s'arrêter ici, bien sûr. Alain Pronkin reste avec nous. Nathalie également. Nathalie est une ex-membre de l'Église biblique baptiste métropolitaine Sud. On en parle parce que, entre autres, il y a quelques jours, toute cette histoire là, de manipulation, de châtiment corporel infligé à des enfants s'est retrouvée dans les mains de la police de Longueuil. Là, ça va aller devant les tribunaux. Il y a plus d'une trentaine de chefs d'accusation contre ce couple qui se faisait passer pour des pasteurs prédicateurs et qui utilisent finalement Dieu, la spiritualité, le fait aussi que peut-être en 2019, on a des vides existentiels importants, je veux dire, le fait que bien des gens soient tristes, en dépression, vivent pas bien, sont isolés, il y a quand même une personne seule, une personne sur deux est seule à Montréal, ça doit contribuer à tout ça, il y a jamais un facteur, il y en a plusieurs qui fait qu'à un moment donné, tu te retrouves devant la porte, c'est marqué Église, tu te dis... Tu sais, il y a une croix, c'est des codes qu'on reconnaît, puis on se dit, peut-être ça va me faire du bien. Puis là, tu rentres là-dedans. On va aller, bien sûr, à la pause, mais on revient tout de suite. J'aimerais ça avoir vos commentaires. Est-ce que vous pensez que vous pourriez un jour être sujet à vous laisser influencer par un gourou? Je pense qu'on a tous des moments de faiblesse dans notre vie, puis c'est correct. Mais il y a des gens qui sont bons pour en profiter. 514-790-9850 et sans frais, vous pouvez nous joindre partout au Québec en faisant le 866-790-9850. On vous donne la parole tout de suite après. Est-ce qu'on pourrait tous se laisser influencer par un gourou, devenir l'objet d'un prédicateur? L'objet, parce que il y a beaucoup de manipulation là-dedans, puis on le voit avec ces histoires de sectes, de mouvements religieux. On sait qu'il y en a beaucoup au Québec. Alain Pronkin est spécialiste de la chose. Alain, est-ce qu'on a chiffré le nombre de sectes ou de groupes religieux au Québec? On sait qu'il y en a des milliers, parce qu'il y a des tout petits groupes.
Il y a des tout petits groupes où on est 72, des petits groupes où on est une vingtaine. Je pense qu'il y en a même une secte dérivée du bouddhisme. Ils sont 7, 8 ou 10. Donc, des petits groupes, il y en a peut-être 1000 au Québec. Et là, est-ce que ça comprend ceux qui disent, les coachs de vie qui vont dire, ben là, tu vas me suivre puis pour ta santé. Puis... Bon, c'est extrêmement difficile à cerner, mais on parle de plusieurs centaines de groupes. Et des groupes qui vont exister d'une façon sommaire, des fois peut-être un an, 5 ans, 10 ans, qui vont vont disparaître, qui vont revenir. Mais ce qu'on sait de tous ces groupes-là, c'est que des fois, des gens vont adhérer à un groupe, vont en faire partie parce qu'ils sont enfin avec quelqu'un dans la vie. Par la suite, ils vont quitter parce qu'ils vont dire, écoute, ça n'a pas de sens. Ils vont revenir dans ce groupe-là. Puis souvent, on leur demande, ben pourquoi tu es revenu dans le groupe que tu n'aimais pas? Ben ils disent, au moins, j'étais avec quelqu'un. J'avais quelqu'un à qui parler.
Donc, toi, la solitude, pour toi, ça explique un peu ça.
La solitude est un des nombreux aspects. Il y a aussi la quête du sens de la vie. Parce qu'on dit, si on dit Dieu existe et c'est une réalité, et là, je crois que cette personne-là qui est devant moi communique avec Dieu par la prière, par quoi que ce soit, et je vais adhérer à ce que cette personne-là dit parce qu'il me semble qu'elle est près de Dieu ou elle communique avec lui. Il y en a d'autres qui vont le faire dans d'autres idées au niveau du spiritisme qui vont dire, oh, moi, je parle avec les morts. Mais les gens, il y a une quête du sens. Il y a une quête de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu me demande de faire? Et lui me le dit. Mais il y a d'autres, ça va simplement faire partie du groupe. Puis quand on regarde les phénomènes sectaires, qu'on se souvienne de l'ordre du Temple Sotère, c'était des professionnels, il y avait des ingénieurs, il y avait des architectes, il y avait le maire d'une ville. Et pourtant, ces gens-là, ils croyaient qu'on va faire un voyage sur, je pense, c'est l'étoile Sirius. Mais c'est quand même quelque chose. Donc,
ils étaient prêts à s'enlever la vie pour ça. Là.
Et ce n'est pas une question, souvent, on va dire, ben, les gens qui sont plus intelligents. Non, ça n'a aucun rapport. On est dans une quête de sens.
On a Martin qui est avec nous. Bonjour, Martin. Vous connaissez cette, entre guillemets, église?
Bonjour.
Bonjour.
Ben oui, effectivement. Moi, mes parents se sont joints à une église baptiste biblique lorsque j'étais enfant. Donc, j'ai grandi une bonne partie de ma vie dans une église qui est dans ce même type de mouvement-là. Ils sont indépendantes, mais il y a quand même un réseau.
Ils sont où? C'est pas celle de Longueuil, c'est une autre église du genre?
Non, c'était sur la Rive-Sud, mais c'était pas à Saint-Hubert.
OK.
Donc voilà. Puis oui, c'est ça. Ça vient me chercher beaucoup, moi, parce que, bon, je suis cette histoire-là du pasteur Monette depuis quelques jours. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, dans ce type de milieu-là, les gens qui arrivent sont quand même relativement vulnérables quand ils se joignent à un groupe comme ça. Ce que la dame disait, les femmes ou les enfants là, en robe bleue marine seulement, code vestimentaire tout le temps. On allait dans la piscine, moi je me rappelle, on n'avait pas le droit d'aller dans des piscines si on n'avait pas de chandail, si on n'avait pas de pantalon pour les garçons. Les femmes, c'était avec des longues robes bleues, avec des chandails manches longues. On avait la dîme, effectivement. Eux autres, ils regardaient là, qui donnait pas. Il y avait un certain statut qui était donné différemment à certaines personnes dans l'Église qui contribuaient plus. Moi, en tant qu'enfant, on n'avait pas le droit de regarder la télévision, ou surtout pas l'hockey, parce qu'il y avait des annonces de bière. C'est un peu drôle, hein? Mais c'est un peu ça, c'est un peu ça qui était véhiculé. Puis je vous dirais, au niveau du... quand j'entends beaucoup les histoires de châtiment corporel au niveau du pasteur Monette, nous, c'était encouragé dans cette église-là également.
De battre ses enfants, c'était encouragé?
Ah, ben oui. Ah. Écoutez, je me rappelle dans l'église, moi, ils vendaient des palettes de bois à l'époque avec des versets dessus, là. On s'entend, là. Oh. Donc, c'était ça. Il y avait cette culture-là où eux autres le voyaient comme un acte d'amour envers les enfants de faire ça. C'était pour les garder dans le droit chemin. Ils utilisaient les Écritures beaucoup pour ça. Puis, c'est facile. Moi, je pense que c'est très sournois. Les gens arrivent avec une certaine quête, comme vous parlez là depuis le début de l'émission. Ouais. Les gens ont un besoin, un vide quelque part, puis bon, t'adhères là-dedans, puis il y a un sentiment de communauté où ils parlent beaucoup de nous, on est un peu comme des élites là qui ont compris c'est quoi la vérité, et les autres, ils appellent beaucoup, ils disent souvent que les autres, c'est des gens dans le monde. Un terme qui est souvent utilisé, dans le monde, dans le monde. Donc, il y a toute cette pensée ou cette idée-là où ce que c'est sournois tranquillement d'amener les gens à se refermer sur eux et sur cette petite communauté-là et être très détaché du restant de la société. Ouais. Donc, les gens finissent par être là et à oublier un peu là de ce que c'est la vraie vie, en fait. Et c'est insidieux dans ce sens-là. Où les gens finissent par être embarqués là, pas à pas.
Et vous, Martin, rapidement, avant de vous laisser, vous avez fini par en sortir?
Oui, non, moi, écoutez, mais c'est difficile. Hein? Quand on grandit là-dedans, c'est difficile parce qu'on se déracine de tout ce qu'on connaît. On a été... donc oui, moi, ça fait plusieurs années là, que je suis plus dans
mais est-ce que ça a été compliqué de quitter ce monde-là que vous connaissiez depuis l'enfance?
Ça m'a pris 10 ans. Ça m'a pris 10 ans à me sortir de ça. Ouais. Sortir, revenir, perte d'amis, difficulté avec la famille. Bon, on se remet en question, on vit des choses, on découvre autre chose. Mais moi, je pense qu'il faut sortir, c'est difficile, sortir de ces milieux-là.
Très difficile, parce que c'est psychologiquement.
C'est ça. C'est oui, puis il y a tout un aspect familial aussi, un aspect communauté où on se déracine complètement de ce qu'on connaît. Donc, les gens qui réussissent à s'en sortir, c'est rare. Puis c'est pas quelque chose qui est facile, mais c'est faisable. C'est
oui.
faisable. Et écoute, aujourd'hui, j'en suis extrêmement heureux. Ouais. J'ai jamais été aussi heureux que ça. Ouais. Mais ça reste que c'est un processus, je crois. Et les gens se rendent pas compte à quel point c'est des milieux qui sont hostiles et où il y a l'aspect gourou là est très 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 présent.
Faut être déprogrammé.
Ouais. Écoutez.
Et tout le monde, Martin, d'après vous, peut être un jour influencé par un gourou. Vous diriez que c'est il y a personne qui est pas à risque.
Je j'irais pas jusqu'à dire ça. Je pense que ça dépend vraiment de ce que chacun vit.
Ouais.
Voyez, moi je sais très bien là avec le recul aujourd'hui en étant adulte, là, je suis capable de voir à peu près la période dans laquelle mes parents étaient quand ils ont joint ce groupe-là. Mm. Et je sais qu'ils étaient dans une période de leur vie où ils étaient un peu plus vulnérables.
Mm.
Donc ça peut arriver à tout le monde d'avoir des périodes un peu plus vulnérables. Je pense qu'il faut faire attention à tout ça. Il faut que les gens aussi autour soient alertes dans la famille ou autre pour être capables d'être présents et d'offrir peut-être un soutien. Quand on voit des gens vulnérables autour de nous, si on leur offre le soutien, peut-être qu'ils ne se tourneront pas vers ces lieux-là qui vont les accueillir à grands bras ouverts et qui, de fil en aiguille, vont finir par les étouffer.
Tout à fait. Hey, merci beaucoup, Martin. C'était très intéressant de vous entendre. On va s'arrêter ici. On revient tout de suite après la pause. On se demande ce matin qui pourrait ne pas être influencé par un gourou par les temps qui courent. Il y en a tellement des sectes, des mouvements religieux et la bonne parole est souvent véhiculée. Puis on a tendance à vouloir la croire. Il suffit qu'il y ait une petite, j'allais dire, faille, petite brèche, dans notre carapace qui fait que quelqu'un s'installe là-dedans. On a l'impression de voir la lumière. Puis finalement, on entre dans un monde de noirceur, de manipulation, de châtiment corporel. Martin nous a confirmé qu'il y en avait d'autres églises bibliques baptistes, en tout cas, qui se font passer pour des églises, comme celle de Saint-Hubert. Encore une fois, ailleurs sur la Rive-Sud, Martin nous disait qu'il voyait... Il y avait le châtiment corporel là-dedans. Robert nous appelle et merci de le faire, Robert. Vous connaissez bien Monette, Mario Monette.
Oui, c'est c'est un de mes membres de ma famille.
Mm-hmm.
Moi, ce que je connais de lui, c'est ce que vous savez déjà dans les médias. Évidemment, j'en sais pas mal plus sur le sujet. Mais ce qui m'intrigue en ce moment, c'est le fait que les victimes subissent des pressions en ce moment. Ça me touche parce que j'imagine que ces gens-là ne le connaissent pas comme moi je le connais. Donc, évidemment, ils n'ont peut-être pas tout le portrait global de la personne. Alors, je m'efforce en ce moment, ici et là, dans les médias, d'essayer d'apporter certaines corrections sur ce qui se dit.
Par exemple?
Moi, je sais qu'il y a, frapper ses enfants, entre autres, parce que moi, j'ai été témoin de ça. Je l'ai vu, j'ai vu les marques, j'ai entendu les coups. Ils m'ont pas témoigné ça. Ce que je trouve déplorable, c'est qu'il y en a certains là-dedans qui ont pris la part du père plutôt que prendre la part du gros bon sens. Parce que, évidemment, le monsieur est très riche, hein, faut le savoir.
Voilà, voilà.
Énormément d'argent d'impliquer là-dedans. Donc, il y a des gens
Il a pris où son argent? Est-ce que c'est effectivement l'argent qui lui a été donné par ses disciples?
Ben, si vous faites un calcul, là, la dîme qu'ils collectent, là, c'est 10% d'un salaire. Donc, les gens qui collectent, là, c'est des gens sur la Rive-Sud. Donc, c'est des gens quand même dans la classe moyenne, on s'entend.
Du brut avec la partie patronale.
Pardon?
10 % du brut ainsi que la partie patronale des avantages.
Les avantages sociaux, oui.
Oui, puis en plus, il y a une contribution volontaire qui n'est pas nécessairement volontaire, voilà. Là, qui est imposée, qui doit être plus élevée que le 10 %. Donc, en moyenne, il collecte à peu près 25 % du salaire de ses ouailles.
Vrai.
Ah, yeah.
Vrai.
Puis, sachez que ministre du CUC, qui est son titre, n'est exempt d'impôts. Alors, cet argent-là...
En plus, c'est ça, c'est des églises qui sont considérées, hein, Alain Pronkin, comme sans but lucratif, puis c'est, c'est sous...
T'as pas de taxes municipales à payer, t'as pas d'impôts. Ben, il y a quand même un impôt sur les revenus, comme les prêtres ont toujours une forme d'impôt sur le revenu. Où il y a vraiment des différences, c'est en France, parce que si on est considéré comme secte en France, il y a beaucoup de mouvements sectaires en France, ben là, tu perds tes avantages fiscaux. Mais c'est certain que
au Québec, c'est avantageux d'être une église.
C'est avantageux d'être une église parce que pas de taxes municipales, pas de ci,
vous,
pas de ça.
Vous dites, Robert, que vous avez vu d'ailleurs l'aîné de la famille dès l'âge de 2 ans, puis peut-être même avant bébé, qui recevait des fessées de 10 à 20 coups.
C'est épouvantable.
Ah ouais.
C'est épouvantable. Moi, là, écoutez, quand vous regardez un enfant de cet âge-là, là, 2 ans, 3 ans, 1 an, et en tout cas, dans ces âges-là, j'ai pas le souvenir exact de son âge, mais quand vous voyez le regard terrifié. Moi, écoutez, il y a 3-4 jours, je me rappelais ces souvenirs-là, j'en pleurais. Ça me touche. Je ne peux pas savoir à quel point je suis bouleversé par cette histoire-là, parce que moi, ça fait des années. Moi-même, j'ai été initié à son mouvement. J'ai été là à peu près 2 ans, à ses tout débuts. Ça m'a pris beaucoup de temps, moi aussi, à m'en sortir, parce que moi aussi, j'avais peur d'aller en enfer, parce que c'est ça qui est son gros, c'est sa grosse ligne.
Oui.
C'est que lorsqu'il vous aborde, il vous séduit, puis ensuite il vous attire dans sa communauté. La communauté, c'est un petit peu comme les AA, hein? Il vous reçoit comme si vous étiez un membre de la famille. Fait que les gens, quand ils arrivent là, ils sont bien reçus, ils se sentent confortables, donc ils commencent à prendre des engagements, puis c'est là qu'est le piège. Parce qu'après ça, on te demande de te couper de ta société, puis de vraiment lire la littérature qu'on te fournit pour que ça aille dans le sens qu'eux veulent. Alors, c'est vraiment... Moi, en tout cas, en 30 quelques années de témoigner, d'avoir été témoin de cet homme-là, écoutez, je suis renversé de savoir qu'il a pu t'offrir toutes ces années-là.
Oui, effectivement.
C'est ça qui est le drame.
Et là, vous dites qu'en ce moment, il y a de la manipulation encore, il y a des menaces pour que la communauté, les membres de la communauté ne parlent pas?
Oui.
Ben, c'est évident, parce que c'est-à-dire que les plaignants, eux, c'est probablement des... Écoutez, je ne veux pas les identifier... Mais c'est gens qui sont certainement des ex-membres de l'Église. Donc, c'est des gens qui sont facilement rejoignables. Donc, c'est facile de les
intimider à se taire.
C'est ça. Parce que ces gens-là, probablement, quand ils sortent de cette communauté-là, ils se retrouvent tout seuls.
Puis vous, vous n'avez pas peur? Vous êtes le neveu de M. Monette?
Ah non, écoutez, là, moi, j'ai peur. Moi, là, je vous dis, là, je vous le dirai pas en nom, mais moi, s'il n'y avait pas de justice, je la ferais moi-même, imagine.
Non, vaut mieux pas. Hein. C'est clair qu'on fait pas ça.
Non.
C'est sûr.
Mais
c'est sûr que quand on entend que des bébés ou des jeunes enfants ou des enfants se font frapper avec des baguettes pour ouvrir des stores verticaux...
Oui.
Ça, je vous le garantis.
Ça m'a été dit de la bouche de la victime. Puis deuxièmement, je voulais juste apporter une précision. Monsieur Monette, c'est un ancien businessman en passant. Des magasins Beau Jeans, je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, là.
Les magasins comment?
Magasins Beau Jeans.
Ah oui. Ah, c'est lui, ça?
Il était propriétaire de ça, puis il a vendu ça pour devenir prêtre. Donc, il a placé son argent à l'abri de l'impôt.
Oui. Eh bien. Bien, merci beaucoup, Robert, de votre témoignage. Alain Pronkin, toute la notion de châtiment corporel, en écoutant Martin tout à l'heure, Robert, là, puis même Nathalie, notre invitée, ça vient d'où le châtiment corporel? Là encore, c'est...
Souvent, on va essayer...
Dans l'Église, là.
Ce qu'ils vont faire, ils vont essayer de l'associer aux Saintes Écritures.
Oui.
Ils vont dire, il y a des châtiments, Dieu a fait des châtiments, Dieu a tué les...
Mais c'est pas marqué nulle part dans la Bible,
c'est pas marqué nulle part, okay. Mais ils vont faire des interprétations, des distorsions de l'Écriture, parce qu'ils se deviennent exégètes, c'est des interprètes des Évangiles. Ils vont dire, comme Dieu peut punir, ben nous aussi, on va punir. Mais on le retrouve un peu partout. Il faut se souvenir de l'Eftahar. Les enfants de ces siècles-là étaient maltraités. Moïse Rocterio, on se souvient que le châtiment corporel allait excessivement loin. Et pourtant, l'Évangile n'enseigne pas qu'il faut couper les bras des gens, mais on allait très loin. Et souvent, on va faire, c'est de la distorsion. Et puis, on est la personne qui est en contact avec Dieu. Puis, il y a une chose qui ressort de plusieurs témoignages, c'est toujours le côté charismatique du leader.
Ouais.
Il y a quelque chose. Je me souviens toujours pour Moïse Roctériau, les gens disaient, il avait des beaux yeux. Pour lui, il y avait toujours un élément de charisme qui faisait que les gens adhéraient à cette personne-là et à toutes les paroles qu'il disait. Pas pour rien qu'on parle, ils sont en amour. Mais ce qui est terrible, c'est que là, on a des gens qui sont sortis du mouvement, ça va bien. Mais pensez aux enfants qui sont nés dans ces mouvements-là. Mm-hmm. Et la seule chose qu'ils connaissent, c'est que si je vais au coin de la rue, c'est l'enfer. Tous mes camarades à l'école, c'est des suppôts de Satan. Ça doit être une pression constante et excessivement difficile pour ces enfants-là, après ça, de suivre leur mère ou leur père.
Wow. On revient tout de suite après la pause. Nous avons Blaise qui nous appelle. Et Blaise, bonjour. Vous êtes pasteur de l'Église évangélique charismatique.
Bonjour, Madame Marichal.
Oui.
Bonjour à vos invités. D'abord, je tiens à redresser certaines choses. Dieu n'est pas charnel.
Non, Blaise, je vous arrête tout de suite parce qu'on ne veut pas partir sur Dieu. Là. Oui, le sujet, c'est vraiment les gourous.
C'est de ça que je veux parler. D'accord. Si votre pasteur n'a pas un métier, c'est un voleur.
Mm-hmm.
Moi, qui vous parle, tout à l'heure, je vais partir pour travailler. Je travaille à la commission scolaire Marguerite Bourgeois. Oui. Je travaille et je fais mon ministère. C'est moi qui sors mon argent pour aider les gens.
Bravo. Quand vous voyez des histoires comme celle de Mario
Monnet...
Ça
nous brise le cœur.
Ouais. Mmh.
C'est du vol.
Oui.
Dieu n'a jamais dit de châtier quelqu'un.
Mmh. Mmh.
Dieu, il ne châtie pas. Ce qui est le problème... Les fidèles ne connaissent rien. Ce sont des ignorants. Quand vous connaissez qui est Dieu, c'est ton père. Ton père ne te châtie pas de la manière les choses se passent. J'en connais beaucoup. Je suis au Québec maintenant, ça fait presque 20 ans. Les gens me connaissent partout. Moi, je ne fais pas ce genre de choses. C'est moi qui sors mon argent pour aider les gens.
Est-ce que vous demandez aux gens de vous donner 10 % de ce qu'ils gagnent?
Je ne prends pas de dîme parce que c'est l'ancienne loi. Jésus-Christ est venu abolir tout ça.
Mm-hmm. Oui.
Il n'y a pas de dîme. Il n'y a pas d'offrande. C'est toi, quand tu acceptes Dieu, tu deviens son offrande.
Mm. Mais la notion quand même blesse de dire les gens sont ignorants. Je sais pas, c'est une façon de...
Oui, c'est de l'ignorance parce que tout est dans la parole de Dieu. Ils ne lisent pas, ils prennent leur Bible et viennent et on se joue d'eux.
Ouais.
Je peux vous donner un témoignage maintenant. J'ai un cousin qui a sa maison à Pointe-aux-Trembles. Mm-hmm. Son enfant fait partie des témoins de Jéhovah. Mm-hmm. Ils l'ont tellement cuisiné que l'enfant a quitté la maison domicile pour aller louer tandis que sa chambre est là vide.
Mm.
Non, il empêche l'enfant d'aller maintenant poursuivre ses études à l'université. Mm. Dieu n'a jamais dit ça. Mm. Paul travaillait. Jésus-Christ, même que nous suivons, était un charpentier. Okay. Il travaillait, il n'a jamais pris l'argent chez personne.
Merci beaucoup, Blaise. Merci bien de ces précisions. Bon, ce qu'on comprend, c'est que toutes les églises ne sont pas les mêmes. Il y en a qui peuvent donner effectivement... semer la bonne parole, comme on dit, Alain. Que garder de notre discussion jusqu'à maintenant? Nathalie, vous disiez, moi, ça m'a pris 20 ans à sortir de ça. Je disais que ça a été compliqué. Finalement, ça a détruit votre couple?
Oui,
aussi.
Effectivement.
Votre conjoint, vos enfants, vous n'avez plus le droit de vous parler. Là, ça s'est rétabli un peu avec vos enfants.
Oui. C'est que quand un enfant sort de là, qui ne veut plus aller à l'église... Mais il doit quitter le domicile familial. Il est chassé de sa maison. Il n'a pas le choix de partir. Donc, l'enfant, il sait que s'il veut pas aller à l'église, il faut qu'il parte de chez lui.
Ça brise des familles.
Ça brise des familles. Des enfants de 14 ans, 16 ans se retrouvent sans domicile. Ils s'en vont rester chez un et l'autre en attendant de se refaire. Financièrement, c'est difficile. C'est déchirant parce que souvent, on est des grosses familles. Les enfants doivent quitter leurs frères et sœurs qu'ils aiment. Donc, c'est carrément pas biblique. C'est pas l'Esprit de Christ qui est là-dedans de détruire les familles, de monter les maris contre les femmes contre les maris, parce que pour régner mieux. Donc, il y a beaucoup de destruction, des enfants maganés dans leur jeunesse, des couples défaits, des grands-parents qui peuvent pas voir leurs petits-enfants. Donc, il y a beaucoup de gens au Québec qui ont souffert de la prédication et des enseignements de cet érudit-là qui a pas, tu sais, qui...
Ouais. Mais il y a lui, mais il y en a beaucoup d'autres. T'sais. Moi, je reçois des courriels de gens qui me parlent de certaines personnes ici à Sherbrooke. C'est quelque chose. Là.
C'est grave.
Demain, là, j'ai envie de vous dire, demain, on va un peu poursuivre, on va faire la suite de notre discussion. On va ouvrir sur la spiritualité, puis peut-être le vide de spiritualité qu'on a, Alain, parce que dans tous les facteurs qu'on essayait de nommer, tu disais, il y avait, c'est sûr, il y a la notion de solitude, mais comment se fait qu'on est perméable à ce genre de message-là?
C'est...
Un gars fait 6'5", qui a l'air à bien parler, puis on va lui donner son salaire. Il y a quelque chose que je comprends pas.
Mais il faut jamais oublier qu'on est d'abord un moteur qui veut croire. C'est la croyance. On dit, je veux croire à quoi? Et nos vies sont toujours là. On va croire à nos parents, on va croire à notre mère, on va croire à notre père. Et si notre père et notre mère nous amènent dans une église, on croit à nos parents. Fait que quand les parents quittent, ça tue nos croyances. Et c'est la croyance qui est le moteur.
Merci beaucoup, Alain Pronkine. Merci, Nathalie, d'avoir pris la parole.
Plaisir. Merci à vous de m'avoir invitée.